franceinter.fr.
Et à la une de la science, aujourd'hui, la preuve apportée que tout le monde rêve. Bonjour Isabelle Arnulf.
Bonjour.
Vous êtes professeure de neurologie au service pathologie du sommeil de la Pitié-Salpêtrière à Paris et vous êtes à l'origine de cette publication INSERM que vous avez joliment intitulée « La preuve que les non-rêveurs rêvent ». Qui sont-ils, ces non-rêveurs, chez qui vous pensez avoir décelé des rêves ?
Normalement, quand vous demandez un petit peu à tout le monde, 20% de la population vous dit rêver peu ou pas.
Oui.
Et puis quand on va chercher dans le détail, il y a un peu moins de 1% qui ne rêvent jamais, qui ne savent même pas ce que c'est depuis tout petit, même pas cette impression très vague qu'on peut avoir au réveil d'avoir rêvé sans s'en souvenir.
Ça, c'est fou quand même.
Le rêve blanc. Mmh. Et ceux-là, ils ont depuis longtemps été étudiés, mis dans des laboratoires de sommeil, ils dorment comme vous et moi, ils ont les mêmes stades de sommeil, ils se réveillent aussi souvent, ils sont aussi intelligents, développés.
Il n'y a pas de pathologie particulière.
Non, pas du tout. Et puis, depuis une quinzaine d'années, nous étudions un autre problème nocturne, ces personnes qui extériorisent leurs rêves en sommeil paradoxal, qui se traduit généralement par un aspect de cauchemar agité.
Mm-hmm.
Des gens qui donnent des coups de pied, qui se disputent ou qui font des choses moins sévères. Et vous voyez 1% d'un côté, de l'autre côté, cette pathologie qui est relativement rare. En 10 ans, on a vu 300 patients avec ce trouble. Et nous sommes aperçus que ces patients-là, qui normalement extériorisent leur rêve en sommeil paradoxal, quand on les réveille, ils rapportent un rêve qui est exactement comme tout le comportement qu'on a vu nous avant, les paroles prononcées, etc. Mais parmi eux, sur 10 ans, on a trouvé 8 qui se rappelaient jamais de leur rêve depuis tout petit.
Donc eux, ils étaient intéressants pour vous.
Voilà, c'est des vrais non-rêveurs. Et eux, on a regardé s'ils avaient un problème de mémoire, pas du tout. S'ils avaient un problème de représentation mentale, si je ferme les yeux et que je me dis, est-ce que je vois la tour Eiffel, je peux me la représenter. Et ils étaient capables d'avoir une représentation d'image mentale. Et malgré ça, aucun souvenir de rêve. Et nous les avons enregistrés. Et ils nous ont fait, mon Dieu, tous les comportements possibles.
C'est ça. Et alors, depuis toujours, en fait, ces personnes n'ont aucun souvenir de leur rêve ?
Depuis tout petit, voilà.
Axel,
vrai non-rêveur.
Mais il est temps d'écouter un de ces enregistrements. Vous avez apporté le son d'un de ces 8 non-rêveurs pris en flagrant délit de rêve. On l'écoute tout de suite.
Oui, il a le sommeil joyeux apparemment quand même.
On est sûr là, Isabelle, que ce monsieur est en train de rêver ?
Oui, on est sûr parce que donc il est endormi, on en est sûr. Ça peut être étonnant quand on entend chanter comme ça.
Oui, effectivement. Oui.
Il a bien les ondes de sommeil. Par contre, nous autres, quand nous rêvons, ça reste intérieur. C'est une expérience intime. Lui a une atteinte d'un système qui est censé verrouiller nos sorties motrices et nos paroles pendant le sommeil. Sinon, on divulguerait des secrets à longueur de nuit.
C'est
et surtout, on cognerait nos voisins, parce que les rêves sont généralement assez violents.
On a des petits cadenas, alors, c'est ça ?
On a un petit cadenas qui est situé dans le tronc cérébral et qui paralyse à l'aide d'un puissant paralysant qui est de la glycine, la moelle épinière. Mmh. Ça nous empêche de bouger dans cette phase de sommeil. Et ces personnes-là ont une atteinte de ce petit noyau.
Et comment réagissent ces personnes quand vous leur montrez pour la première fois leur corps en train de rêver?
Alors la première surprise qu'ils ont, c'est de voir le désordre qu'ils ont mis dans la chambre, parce que ils peuvent renverser les tables de nuit, etc. Et ils sont surpris, ils ont l'impression de voir quelqu'un d'autre.
Alors est-ce que vos découvertes justement peuvent aider ou s'appliquer en tout cas à tous ceux qui ne se souviennent pas de leurs rêves, ou très rarement en tous les cas?
Ça montre surtout qu'ils sont comme nous producteurs de rêves, simplement que soit ils ne gravent pas le souvenir de rêve, soit ils le gravent mais ils n'accèdent pas au disque dur. Et donc l'étape suivante va être de voir, de montrer à quelqu'un son scénario ou de lui dire un élément de ce qu'il a prononcé en rêve et de voir si ça fait un fil d'Ariane pour retrouver sa mémoire de rêve. Est-ce qu'on a quelque part un disque dur avec tous nos rêves?
Ça serait formidable de le retrouver en tout cas et
pouvoir
mettre la main dessus. Ouais. Donc concrètement, vous mettez des gens à dormir dans votre laboratoire.
Oui,
c'est comme ça que vous procédez.
C'est comme ça, avec des caméras infrarouges, puisqu'on filme dans le noir, des micros, comme vous pouvez entendre. Et on découvre tout un monde de la nuit, comme ça, avec beaucoup de gens qui parlent, qui rient, qui se débattent, qui crient. Tout en restant endormi, on en est sûr, à cause de nos capteurs.
Est-ce qu'il existe des personnes qui se souviennent de tous leurs rêves ?
il existe des personnes qui sont fatiguées de rêver et qui viennent nous voir pour ça, en disant « je suis fatiguée, je rêve toutes les nuits, c'est d'un ordinaire à mourir, je fais du repassage, je choisis mes habits, etc. » Vous savez que la plupart des rêves sont quand même relativement ordinaires, si on les recueille systématiquement. Et ces personnes-là viennent nous voir parce qu'elles sont fatiguées de cela, alors on peut le voir dans différents problèmes, tels que des insomnies ou des hypersomnies. Et il semblerait que ça ne soit pas très bon d'être conscient de tous ces rêves, en tout cas ça a l'air fatigant.
Oui. Vous travaillez beaucoup sur le sommeil des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, c'est ça? Pourquoi ces malades justement font de bons sujets scientifiques pour vous?
Alors parce que ces patients, à cause de la perte de cellules qu'ils ont liée à la maladie de Parkinson, cette perte de cellules survient non seulement dans ce qui va contrôler le mouvement dans la journée, ce qui est à l'origine de leur tremblement et de leur ralentissement moteur, mais cette perte de cellules peut survenir dans ce petit verrou plus bas, et dans beaucoup de cas, ça survient même avant le début de la maladie de Parkinson elle-même, 10-15 ans avant. Et maintenant, on sait que ces personnes qui extériorisent trop leurs rêves en sommeil paradoxal, qui ont ces combats, etc., ont un très haut risque de développer au bout de 10-15 ans une maladie de Parkinson. Donc, il nous intéresse pour essayer de comprendre ce qui se passe et les protéger, puisqu'on est bien avant la perte de dopamine.
Peut-être une dernière question. Est-ce que c'est important ou est-ce que ça sert à quelque chose de se souvenir de ses rêves?
Le rêve semble pas avoir été programmé pour être retenu. La majorité des gens les oublient. Donc c'est plutôt par intérêt personnel qu'on peut chercher à s'entraîner à les retenir. Ça ne semble pas grave d'en avoir pas le souvenir.
En tout cas, ça sert à raconter de belles choses à son psychanalyste aussi, de temps en temps, pourquoi pas.
Absolument.
Est-ce que les traitements...
Et aux chercheurs aussi.
Et aux chercheurs, oui. Est-ce que les traitements médicamenteux influencent les rêves aussi? Ou est-ce que la façon dont nous mangeons, et en fonction de ce qu'on mange, est-ce qu'on peut établir des corrélations?
Ce qu'on mange a été peu étudié, hein, bien qu'on dise que les viandes fassent rêver, mais c'est plutôt une
les viandes font rêver.
Font rêver plus ou souvenir plus. Évidemment, si vous faites un bon gueuleton, vous pouvez avoir un peu de reflux acide et vous réveiller plus. Et du coup, plus vous souvenir de vos rêves. Mais au niveau des médicaments, oui, il y en a qui influencent absolument. Il y a des médicaments à cauchemar, comme les bêta-bloquants utilisés dans l'hypertension, certains médicaments à base de dopamine, ce qu'on utilise dans le sida aussi, les inhibiteurs de la transcriptase. Et à l'inverse, il y a des médicaments amnésiants qui font oublier plus les rêves, avec au premier chef la famille des somnifères et des benzodiazépines.
Et la proportion de rêves et de cauchemars, est-ce que vous arrivez à l'établir aussi dans vos recherches ou pas?
Alors oui, on demande toujours, et évidemment c'est différent d'une personne à l'autre, mais oui, quand même, une personne a facilement 2-3% de ses rêves qui sont des cauchemars.
Oui, Valérie Chansigault, l'état de la planète aujourd'hui ne vous fait pas trop cauchemarder, parce que quand on lit votre livre, c'est pas franchement pour nous faire faire de jolis rêves.
Maintenant, je sais qui consulter.
Ah ben voilà, ah ben oui, vous avez l'une des meilleures à côté de vous. Hein. Donc, prenez ces coordonnées, effectivement, ça pourra vous servir. Merci beaucoup Isabelle Arnulf, c'est une publication qui vient de paraître, donc réalisée par votre équipe et pour l'INSERM. Merci beaucoup d'être passé à la une de la science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une info tiens, pour nos invités. Un nouveau virus humain a été découvert par des chercheurs de l'Université de Columbia. Il a été retrouvé dans 46 échantillons de sang transfusés entre 1974 et 1980 grâce à des techniques récentes de recherche d'ADN viraux nommées PJ-virus 1. Il représente des similarités de structure avec celui de l'hépatite C, mais pas d'inquiétude, il semblerait inoffensif et rapidement détruit par notre système immunitaire. Selon les chercheurs, il se pourrait même qu'il soit bénéfique pour notre corps, tout comme bon nombre de bactéries. David Biron, vous voulez réagir?
Oui, ben souvent. Donc ça, c'est la vision, on va dire, de la fin du XXe siècle. Les parasites étaient souvent perçus comme des organismes nuisibles.
Absolument.
Mais de plus en plus, il y a un champ disciplinaire qui émerge dans ce début du XXIe siècle où on perçoit les avantages aussi du parasitisme.
Voilà, les virus qui peuvent par exemple nous aider aussi.
Et les virus qui sont insérés dans notre génome et qui peuvent avoir des effets bénéfiques.
La mort a-t-elle une odeur? Eh bien, il semblerait que oui. Des toxicologues de l'Université de Louvain en Belgique ont tenté d'identifier les composés chimiques qui caractérisent l'odeur du cadavre humain en plaçant des morceaux de tissu humain et d'animaux dans des jarres. Les chercheurs ont pu identifier 452 composés chimiques spécifiques à l'homme et non aux animaux. Cette étude pourrait dans le futur servir à l'entraînement des chiens détecteurs de cadavres. Et puis enfin, il s'appelle Ugru Naluk Kupkikensis et c'est un nouveau dinosaure mis au jour par des chercheurs de l'Université de l'Alaska de Fairbanks. Les fossiles de la bête ont été découverts dans une couche de 69 millions d'années, proche de Colville, un cours d'eau septentrional d'Amérique du Nord. Ce dinosaure à bec de canard aurait vécu dans le nord de l'Alaska et pouvait mesurer jusqu'à 9 mètres de long.